Marie-Josée Boileau, bonjour.
Oui, bonjour. Enchantée.
Enchantée, certainement. Les bienfaits de la pratique de la méditation pleine conscience sur la santé physique et psychologique, et je le disais un petit peu plus tôt en introduction, ça a été abondamment étudié et documenté pendant les dernières années. Et pourtant, c'est une pratique qui est relativement nouvelle. Ça a été mis de l'avant il y a à peu près un peu plus de 30 ans, c'est ça?
Oui, oui. Nous autres ici, hein, je dirais en Amérique du Nord, on a été particulièrement sensibilisés par cette pratique-là en 1979, je dirais plus précisément. C'est Jon Kabat-Zinn, qui était un professeur émérite de l'Université du Massachusetts. Et il a fondé là-bas la clinique de réduction du stress basée sur la pleine conscience au Centre médical de l'Université du Massachusetts. Et c'est de là que, dans le fond, on a commencé à s'y intéresser puis à voir les bienfaits. Puis il réalisait que, dans le fond, en pratiquant la méditation pleine conscience sur une base régulière, il y avait des patients qui complément de leur traitement médical, là, ils arrivaient à réduire leur réponse de stress, d'anxiété, de douleur chronique, puis ça favorisait de façon remarquable leur rétablissement. Fait que ça a été vraiment une découverte majeure à cette clinique-là. Puis, ben à partir de là, ça a fait un peu boule de neige, je dirais. Ça s'est répandu dans plusieurs centres médicaux, des hôpitaux, des cliniques dans le monde entier. Puis, présentement, c'est devenu, je dirais, un champ majeur de recherche, autant en médecine, en psychologie, en neurosciences, puis tout ça, là. Fait que on l'utilise pas seulement pour le traitement du stress, de l'anxiété, mais aussi pour l'humeur dépressive, les troubles bipolaires. Dans le fond, c'est une pratique qui s'est étendue, finalement.
On l'utilise même en toxicomanie, Marie-Josée Boileau, je lisais.
Oui, ben oui. Dans le fond, ça pourrait être utile pour tout le monde, ça pourrait aider tout le monde parce que les bienfaits sont importants. Fait que c'est effectivement de plus en plus utilisé à de multiples endroits.
Dans différentes sphères, et là, je trouve ça intéressant, de plus en plus dans les facultés de médecine, on fait appel à la méditation pleine conscience pour former les spécialistes de la santé, et pas seulement les médecins, les travailleurs sociaux, les ergothérapeutes, les infirmières également, et également dans le monde des affaires.
Tout à fait.
Donc, c'est extrêmement vaste. Et, on a parlé des nombreux bienfaits. Bien sûr, pour un spécialiste de la santé, c'est peut-être pas... On ne va pas viser les mêmes choses que pour le grand public, j'imagine.
Je dirais, dans le fond... Le grand public, je sais pas très bien quelle distinction vous voulez faire.
Ben, pour un spécialiste de la santé, on va parler d'empathie, on va parler de pouvoir se recentrer entre deux patients. Des fois, les médecins sont extrêmement sollicités, un grand, grand stress, ils tiennent la vie des gens entre leurs mains. Pour le grand public, c'est peut-être différent. Est-ce qu'on va cibler les mêmes choses?
Ben, je dirais que, dans le fond, ce qui arrive, c'est que si j'oserais l'exprimer comme ça, là, c'est que moi, je m'intéresse beaucoup au traitement de l'anxiété. Là, chez nous, on a mis sur pied un groupe d'autogestion de l'anxiété, puis je le co-anime depuis quelques années. Puis j'ai beaucoup la clientèle là, qui souffre de troubles anxieux, je dirais en général. Puis souvent, des choses qu'on peut leur enseigner, entre autres, c'est des techniques de relaxation. Mais des techniques de relaxation, ça vise un but en particulier, favoriser la détente. Je dirais, on a un objectif en tête, devenir mou comme du jello, peu importe, là. Mais la méditation, c'est pas une technique, c'est une philosophie de vie. C'est une façon d'aborder la vie. Fait que je dirais, dans ce sens-là, pour le grand public, pour tout le monde, je dirais que c'est un regard différent qu'on peut porter sur les choses et dans le fond, on peut l'intégrer dans notre quotidien. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant de la méditation pleine conscience par rapport à d'autres formes de méditation parce que souvent, les gens, le grand public ont en tête s'asseoir sur un tapis puis léviter puis atteindre l'illumination pendant des heures. Mais la méditation pleine conscience, c'est pas ça. C'est beaucoup plus, dans le fond, comment porter pleinement attention à ce qui est dans le moment. Puis le fait d'y accorder toute mon attention, ça me permet de me déposer, puis pendant un instant, de me gorger un peu d'énergie ou de goûter à ce qui est présent dans le moment, que mes sens me permettent de connecter. Ça peut être une belle envolée d'oiseaux, ça peut être un café que je suis en train de savourer, ça peut être une musique que j'aime entendre, peu importe ce qui est présent dans le moment. Et je prends le temps de m'arrêter et d'enregistrer ce moment-là.
Mm-hmm.
Et ça... Ça peut se faire en lavant la vaisselle, ça peut se faire en s'en allant au travail en voiture, ça peut se faire en prenant une douche le matin, en se brossant les dents. C'est d'habiter pleinement des différentes activités qui se déroulent dans mon quotidien. Et le fait de le faire de cette façon-là, je dirais, c'est comme si ça, au niveau de notre corps, ben ça nous fait produire moins d'hormones de stress.
Mm-hmm.
Et ça favorise un mieux-être puis un bien-être là, à ce moment-là.
Donc, je pense que c'est important de le redire, Marie-Josée. La méditation pleine conscience, ça ne se fait pas nécessairement de façon immobile. Ça peut se faire en marchant, en
oui.
se rendant au terminus d'autobus, à la voiture, à la garderie pour chercher les enfants.
Exactement, exactement. C'est dans le fond, on décide, c'est vraiment intentionnel, hein, c'est pas quelque chose qu'on va forcer, c'est juste de se laisser le choix à un moment donné. Je peux être à un arrêt de bus, j'attends l'autobus, puis je peux, dans le fond, habiter ce moment-là en disant, mon Dieu, quand est-ce que l'autobus va arriver? Est-ce qu'il va être à l'heure? Est-ce que je vais être à temps au travail? Dans le fond, d'être dans une période où je vais produire beaucoup d'hormones de stress,
ouais.
puis je serai pas bien, je vais être crispée, tendue, je vais anticiper quelque chose, ou je pourrais choisir librement de porter pleinement mon attention à ce qui est là dans le moment. Puis tout d'un coup, lever les yeux, puis d'apprécier peut-être un bel arbre qui est proche ou décider que je me centre tout simplement sur ma respiration, puis je fais des respirations abdominales profondes. C'est vraiment une question de... Si on symbolisait l'attention par une lampe de poche, c'est de retrouver un peu le pouvoir de sa lampe de poche.
Mmh.
Où je vais la diriger, ma lampe de poche, dans le moment. Puis de pleinement habiter ce moment-là. D'essayer que ma lampe de poche va être tournée vers ça dans le moment. J'ai peut-être 5 minutes à attendre le bus, mais c'est un 5 minutes que je vais vivre totalement différemment. Puis je vais l'enregistrer, ça. Et ça, ça fait des dépôts d'énergie à l'intérieur de nous.
Mm-hmm. J'ai souvent l'impression que notre lampe de poche est dirigée vers les mauvaises choses. Et bien sûr, sans vouloir rendre coupable personne, on n'est pas là-dedans, mais quand on attend l'autobus et que l'on focalise sur le fait d'être en retard, nos énergies se gaspillent. C'est une façon, un petit peu comme vous le disiez très bien tout à l'heure, de se regorger d'énergie.
Mm-hmm. Oui, c'est qu'on fonctionne beaucoup sans s'en rendre compte, nous autres les humains, sur le pilote automatique.
Ouais.
Puis c'est comme, puis à quelque part, c'est bon parce que si, des fois, je donne souvent cet exemple-là, si je fonctionnais pas sur le pilote automatique, ben j'embarquerais dans ma voiture, je me dirais, voyons, comment je fais pour faire fonctionner mon auto? Comment je fais même pour me lever puis me déplacer si je veux marcher? Donc, j'ai plus à me poser ces questions-là. Là. Comment je fais pour manger? J'ai plus à me poser ces questions-là. C'est sur le pilote automatique. La seule chose, c'est que des fois, il y a des choses qui embarquent sur le pilote automatique et ça fait pas nécessairement de bien. Je sais pas s'il y en a peut-être parmi votre auditoire qui connaissez Dr. Serge Marquis qui a écrit un livre, Le Pensouillard, le hamster,
oui.
Le petit traité de décroissance personnelle. Donc, on a, dans le fond, des fois dans notre pensée, je dirais, une tendance à ruminer, un peu comme on appelle ça le hamster mental. Donc, à rouler dans notre tête, des fois, ça peut être des regrets de choses dans le passé ou ça peut être, dans le fond, de l'anticipation dans le futur. Hein? On est beaucoup dans tout d'un coup que si alors, où j'aurais donc dû. Donc ça, je dirais, quand on est là-dedans puis qu'on roule avec ça dans notre tête, bien, on peut être, je dirais, 5 minutes à attendre l'autobus puis, dans le fond, rouler ces préoccupations-là sur un pilote automatique sans s'en rendre compte.
Ouais.
Souffrir, des fois, c'est penser sans le savoir. Mmh. Et malheureusement, bien, pendant que ça se produit, bien, mon corps, mon cerveau, lui, enregistre que je suis en train de voir du danger et il produit des hormones de stress pendant ce temps-là.
Oui.
Et ça, bien, le cumul de tous ces petits moments-là dans une journée où on est sur un pilote automatique où on produit des hormones de stress, bien, ça fait que ça ne fait pas de bien en bout de ligne et qu'on prend, on perd à un moment donné la capacité de dans le fond, je m'intéressais à un moment donné aux études sur le bonheur une période, mais dans le fond, le bonheur est à portée de main. C'est tous ces petits moments-là auxquels on peut prêter notre attention.
Et que l'on additionne au bout d'une journée.
Exactement.
Oui.
Et c'est ce qui fait qu'on va évaluer notre vie plus heureuse ou moins heureuse là, en bout de ligne là, à ce moment-là. Puis c'est cette façon-là de faire, c'est quand je dis que ça gorge d'énergie, c'est que ça nous donne l'énergie pour affronter des épreuves qui se présentent aussi nécessairement dans notre vie, là. Mais on a l'énergie pour le faire si on a pris le temps justement de se déposer comme ça.
On parle beaucoup de ce moment présent et bien sûr, c'est ça la méditation pleine conscience, c'est de revaloriser le moment présent, mais qu'est-ce qu'on fait du passé et du futur? Est-ce qu'il faut complètement les éliminer de notre vie? Bien, ça se fait pas, premièrement, je pense.
Oui, bien, c'est ça. C'est vraiment intéressant comme question parce que souvent, c'est très galvaudé. Hein? On est tellement rendu à dire, hey, il faut habiter le moment présent, habiter le moment présent, que souvent, dans les cours que j'anime, moi, je demande aux gens combien de temps il faudrait passer dans le moment présent. Souvent, les gens me disent 100% du temps parce que le passé puis le futur, c'est négatif. Mais on est rendu dans un autre extrême, des fois, au niveau de notre pensée parce que je dirais, si on coupe les racines à un arbre, il meurt. Donc, notre passé est important. Puis moi, souvent, je m'en sers en thérapie avec les clients pour dire, ben écoute, tu vis une épreuve en ce moment, mais tu en as traversé d'autres. Comment tu t'y es pris? Tu sais, donc, le passé est utile pour se rappeler le bagage qu'on a, nos forces, nos ressources, nos compétences, les choses qu'on a réussi à traverser, puis des beaux souvenirs à l'intérieur duquel on peut se nourrir à ce moment-là. Donc, ça, c'est pas négatif d'aller dans le passé. D'aller dans le futur, quand on va dans des projets qui nous enthousiasment, qu'on fait de la planification de choses qui sont intéressantes, qui sont stimulantes pour nous, ça nous fait avancer, ça donne de l'espoir. Hein? Puis moi, en thérapie, c'est ce que je fais le plus, cultiver l'espoir avec les gens. Donc, le passé, le futur, c'est précieux. Il n'y a pas, en fait, de temps plus important qu'un autre. Mais la seule chose, c'est pour la méditation pleine conscience nous entraîne à habiter le moment présent. Parce que dans nos vies où on est beaucoup bousculé et affairé, puis comme on sait qu'on fonctionne beaucoup sur le pilote automatique, des fois, on a des automatismes dans la pensée. Et c'est que ça fait en sorte qu'on habite peu le moment présent. Et dans le fond, c'est le temps qui est le plus fragile en bout de ligne et c'est celui qu'il faut s'entraîner à retourner vers parce que dans le fond, dans nos automatismes de pensée, des fois, on retourne dans un passé qui fait pas de bien ou dans un futur qui fait pas de bien non plus. Et là, ben, il faut s'en rendre compte parce que si on continue de ruminer beaucoup, c'est ce qui prépare sur du long terme le terrain à l'humeur dépressive,
et voilà.
À un moment donné à la dépression. Là.
Et à l'anxiété, voilà.
Et à l'anxiété, exactement.
On devrait méditer combien de fois par semaine, combien d'heures par jour? Ça, c'est la grande question.
Oui. C'est sûr que, je dirais, dans le fond, il y en a qui disent « Mon Dieu, je serai jamais comme le Dalai Lama à méditer 30 heures par semaine pendant 30 ans. » C'est que, mais dans le fond, c'est un peu propre à chacun de voir un peu le temps qu'on est prêt à y consacrer dans notre vie puis ce qu'on a envie de ressentir en bout de ligne comme bienfait à tout ça. Mais souvent, ce qu'on va recommander, ce serait d'avoir une pratique quotidienne juste pour s'entraîner à aller habiter ce moment présent-là. Une pratique quotidienne, je dirais, ce qui serait souhaitable au début, c'est d'être dans un endroit qui est plus calme, plus en retrait, où on ne sera pas dérangé. Et peut-être plus le matin pour commencer, parce que c'est comme si ça permet en début de journée d'aller installer un état d'être qui devient un peu un point de référence pour notre journée, puis qui peut nous donner envie d'y retourner de temps en temps ou de faire perdurer un peu l'état. Puis en même temps, ben je dirais aussi, on va suggérer peut-être au départ d'avoir un 10 minutes le matin à ce moment-là. Là. Fait que,
c'est rien quand on y pense, hein?
Oui.
10 minutes.
C'est rien, puis c'est en même temps, ça fait toute la différence aussi, ce 10 minutes-là où... Et dans notre vie où on est beaucoup happé vers l'extérieur, c'est un temps où on se connecte à soi-même, où on cultive un peu notre intériorité. Là, fait que devenir auto-observateur de soi plutôt que d'être dans la fuite de soi-même, hein, ça peut donner beaucoup d'informations précieuses avec le temps.
Oui. Et justement, en terminant, Marie-Josée, Qu'est-ce que vous dites à vos clients qui, justement, sont effrayés de ça? On n'est pas habitué de plonger à l'intérieur de soi. On est vers un écran, on est vers la performance. On valorise l'action beaucoup, beaucoup dans notre société. Et parfois, se rencontrer, ça peut être un peu bouleversant là, lorsqu'on veut s'initier à la méditation.
C'est sûr que, je dirais au départ, des fois, ce qui va beaucoup décourager les gens, c'est de découvrir à quel point leur esprit part continuellement, puis ils disent, ben moi, c'est pas fait pour moi parce que mon esprit part continuellement. Puis moi, je leur dis tout le temps, ben c'est justement intéressant de découvrir ça, puis on fonctionne tous comme ça. Donc, c'est de développer un accueil sans jugement de soi-même, puis c'est de dire, ben chaque fois que ton esprit part, dis-toi félicitations, puis dis-toi que chaque fois que tu t'en es rendu compte, ben c'est formidable parce que c'est comme si tu avais mis un bâton dans la roulette du hamster puis tu viens de le faire débarquer. Parce que l'hamster, quand il roule 300 fois plus vite que ton débit de parole, puis il s'emballe vite. Hein. Fait que c'est déjà de l'avoir arrêté peut-être dans ton 10 minutes 350 fois, c'est déjà une énorme récupération. C'est déjà une certaine forme de pacification intérieure là, à ce moment-là.
Oui.
Quand les gens ont peur de cette connexion-là avec eux-mêmes, moi, je leur dis, ben, de toute façon, c'est comme si, à quelque part, tu avais une voiture puis que ça flash sur le tableau de bord. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu gardes le pied sur l'accélérateur. C'est parce qu'à un moment donné, de toute façon, il va se passer quelque chose. La voiture va lâcher, il va arriver quelque chose.
Il va avoir un accroc quelque part, là. Oui.
Il va avoir une rencontre obligatoire avec la voiture pour son fonctionnement. Fait que c'est un peu la même chose avec nous-mêmes. C'est nos émotions, nos sensations physiques sont des signaux à prendre en considération, puis à prêter attention. Puis un peu si on faisait l'analogie avec un enfant qui pleure, si on prend le temps de l'aider à nommer ce qu'il ressent, bien, ça s'atténue, puis il continue de faire ses activités, puis il développe même un attachement plus profond avec nous. Mais si, par contre, on le laisse pleurer, puis on dit, bien là, fini, sèche tes larmes, puis passe à d'autres choses, là, puis ça va faire, puis t'es capricieux, puis etc., bien, je dirais, l'enfant peut, soit ça peut amplifier sa réaction, ou en tout cas, une chose est certaine, il va pas développer un attachement très fort à nous avec le temps. Là.
Oui, et pas devenir cet adulte qui apprend à calmer son anxiété et à nommer ses émotions, bien sûr. En tout cas, l'image est belle. La méditation pleine conscience comme étant une jambette au hamster intérieur, ça, je vais retenir ça, Marie-Josée Boileau, et tout le reste parce que c'était vraiment des informations très précieuses. Je rappelle, vous êtes psychologue au C3S du Sud-Ouest de Verdun.
Merci. Ça a changé.
Oui, c'est
le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Centre-Est de l'île de Montréal.
Ah, ben, merci de le préciser. On le fera également sur notre site. Merci beaucoup, Marie-Josée.
Bienvenue, ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Bonjour.